Voici votre rendez-vous littéraire sur Radion. Bonsoir à toutes et à tous, fidèles de Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Nous nous plongerons au cœur des secrets du Vatican avec le journaliste Bernard Lecomte. Ancien grand reporter à La Croix et à L'Express, ancien rédacteur en chef du Figaro Magazine, il est devenu un spécialiste reconnu de la papauté depuis qu'il a croisé en juin 79 le chemin de Jean-Paul II, dont il a écrit chez Gallimard une biographie parue en 2006. Bernard Lecomte n'est pas un journaliste religieux, ni un théologien, ni un spécialiste des affaires religieuses, mais il est bien un journaliste d'investigation qui enquête méthodiquement et enlève les fantasmes, les légendes et les bêtises qui nuisent à la vérité. Publié aux éditions Perrin, Les derniers secrets du Vatican, dont il va être question ce soir, ont pour objectif la quête de la vérité historique. Et je cite l'avant-propos de Bernard Lecomte. « Ni agressif, ni idéologue, ni polémiste, ni compassé, ce livre n'a qu'un objectif, celui de l'exactitude historique. C'est à partir des faits dûment vérifiés et mis en perspective que le lecteur pourra forger son opinion, nourrir ses indignations ou conforter ses engagements. » L'entretien diffusé ce soir a été enregistré en public le 5 août dernier lors du salon Bain de Livres à Saint-Honoré-les-Bains. Bernard Lecomte sera également présent et dédicacera ses derniers secrets du Vatican lors de Livres en Vigne qui se tiendra au château du Clos de Vougeot les 29 et 30 septembre prochains. Pour connaître d'ailleurs la liste des auteurs et éditeurs invités au salon du livre Livres en Vigne, vous vous rendez sur le site www.livresenvigne.com. Mais pour l'heure, place au secret avec Bernard Lecomte qui va nous expliquer, et cela est totalement méconnu, combien le rôle du pape Jean XXIII a été capital dans le dénouement de la crise des fusées de Cuba il y a 50 ans, en octobre 62, l'année où le monde est passé au bord de la guerre nucléaire.
J'ai lu la Pravda, moi, tous les jours pendant des années de ma vie, mais si. Et j'avais noté un jour, je ne sais plus quand même, que la Pravda un jour avait cité un pape en première page. Croyez-moi, la Pravda, ce n'est pas un journal à citer le pape en première page. Et c'était en effet une histoire avec Jean XXIII au début du Concile. Bon. Alors vous allez peut-être retrouver cette histoire, parce que dans quelques mois, là, on va commémorer justement le début du Concile, les 50 ans de l'ouverture du Concile Vatican II. Et tout à fait en parallèle des toutes premières réunions du Concile Vatican II, monte cette affaire entre Khrouchtchev et Kennedy. Je ne refais pas toute l'histoire, mais les Soviétiques installent à Cuba des rampes de missiles, et amènent des missiles qui vont avec d'ailleurs, des missiles à moyenne portée qui sont capables d'atteindre la Floride et les États-Unis en quelques minutes. Ce geste militaire bouleverse complètement la donnée de la dissuasion nucléaire qui reposait sur le fait que l'équilibre entre l'URSS et les États-Unis, c'est que les missiles à longue portée, le temps qu'ils arrivent, on avait le temps de déclencher les autres. Donc on ne les déclenchait pas parce qu'on était sûr de se suicider en quelque sorte. C'est ça la dissuasion nucléaire. Tout change à partir du moment où il y a des missiles tout près de la Floride, à 150 bornes, et que, d'un seul coup, les États-Unis sont à la merci des Soviétiques. Donc Kennedy et son entourage disent « c'est pas possible ». Donc il va y avoir un bras de fer, là, tout d'un coup. Alors nous sommes le 22, 23, 24 octobre 1962, et notamment, à un moment, on amène sur le bureau de Kennedy des photos prouvant que les Soviétiques sont bien en train d'installer des missiles à Cuba. Alors là, ça déclenche immédiatement la riposte. Kennedy impose un blocus à tous les bateaux soviétiques qui viennent du nord de l'URSS pour alimenter les missiles, les silos, etc. Et là, évidemment, si un Américain bloque un bateau soviétique au milieu de l'Atlantique, normalement, ça déclenche aussi une guerre mondiale. Donc là, on était à un niveau de bras de fer terrifiant, parce qu'il y a un moment ou dans cette, ce qu'on appelait, vous savez, l'escalade aux extrêmes. C'est la montée aux extrêmes. La montée aux extrêmes qui faisait qu'il y a un moment où plus personne ne peut arrêter rien du tout. Et on en était là, exactement, je crois que c'était le 24 octobre. Et, évidemment, affolement général quand même. Tous ceux qui étaient dans la confidence, tous ceux qui étaient en train de savoir ce qui se passait, étaient tout à fait affolés. Et il y a un conseiller de Kennedy, qui s'appelle Sorensen, Ted Sorensen, qui dit à Kennedy, mais il n'y a pas un gars qui avait expliqué que seul le pape pouvait intervenir dans ce cas-là. Il y avait effectivement un journaliste progressiste américain qui s'appelait Cousins, qui avait fait sa thèse là-dessus en disant, et si la montée aux extrêmes est inarrêtable, est-ce, qui pourrait intervenir? Quel intermédiaire? Le seul, c'est le pape. Pourquoi? Parce que c'est une autorité morale qui n'a rien à défendre, qui n'a pas d'armes nucléaires, qui n'a pas de territoire ni de pétrole à défendre, et qui a en plus une grande autorité réelle sur la Terre. Et Sorensen téléphone à ce cousin, qui est à ce moment-là dans un colloque, quelque part aux États-Unis, avec des soviétiques, justement. Il y avait des savants soviétiques là. Et Cousins reçoit le coup de fil en disant « C'est le moment de mettre votre thèse en application. Comment on fait pour rejoindre le pape ?» Et Cousins, qui est d'ailleurs avec un dominicain qui est là, qui est un père un peu interlope et assez espion, comme quoi il y a aussi des espions chez les dominicains, mais on le savait déjà. Enfin, celui-là s'en est un, le père Marion, incontestablement. Et parce que ce colloque, c'était des soviétiques et des américains qui étaient... technicien à peu près comme moi, je suis l'évêque de Melun, c'est-à-dire qu'ils étaient quand même là pour se jauger les uns les autres, pour entretenir le contact, ça servait un peu à ça aussi. Bref, Cousins discute avec les soviétiques qui sont là et dit comment on fait. Alors, il téléphone à Rome, qui est-ce qu'on connaît à Rome? Le substitut, Dellacqua. Bon, on téléphone à Dellacqua. Alors il tombe sur le secrétaire du substitut, il téléphone au substitut, il dit voilà, est-ce qu'on peut joindre le pape? Et ça, tout ça se passe en une demi-journée, hein. Et Dellacqua comprend d'où ça vient, qui est là, quel est l'enjeu, et effectivement, il dérange Jean XXIII en disant, très Saint-Père, voilà la situation, est-ce que vous pensez que vous pouvez influer, dire quelque chose à Khrouchtchev? Et Jean XXIII, alors il passe la moitié de la nuit, Jean XXIII et Dellacqua, à rédiger un texte, évidemment c'est un appel à la paix, c'est un appel à la négociation, et le lendemain matin, Jean XXIII envoie ce texte aux deux ambassadeurs à Rome, alors l'ambassadeur américain et l'ambassadeur soviétique, auprès de l'Italie, parce que bien sûr, il y a aucun pays n'a d'ambassadeur auprès du Saint-Siège à ce moment-là. Et donc, les deux ambassadeurs reçoivent le texte, évidemment leur métier, ça consiste à l'envoyer immédiatement dans leur ministère respectif, et Jean XXIII, on est un mercredi matin, et Jean XXIII va à l'audience générale. Ceux qui connaissent le Vatican savent que c'est le mercredi matin que le pape reçoit tous ceux qui veulent venir. Et là, il y a notamment un millier de Portugais qui sont là, qui ne comprennent pas bien quand tout d'un coup le pape commence à parler de la paix dans le monde, de la négociation entre les grands, etc. En fait, le pape sort son texte pendant son homélie, son discours. Et donc on comprend bien, pas bien pourquoi, mais on comprend que le pape est très préoccupé de la paix, etc. Et le soir, la Pravda est un journal du soir, le soir, en une de la Pravda, le pape Jean XXIII en appelle à la négociation et le texte du pape. Et là, les gens qui connaissent le sujet se disent « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment se fait-il que la Pravda de Khrouchtchev sorte l'homélie du pape, enfin le discours du pape ?» Et en fait, c'était un geste très très fort, et l'après-midi du lendemain, l'après-midi de ce jour-là, donc juste après que la Pravda soit sortie, les fameux bateaux qui traversaient l'Atlantique, là, qui étaient sous la menace des bateaux américains, font demi-tour. Enfin, pas tous d'ailleurs. Trois ou quatre bateaux font demi-tour. Ce qui lève évidemment la menace. C'est-à-dire qu'on n'allait pas frapper, les Américains n'allaient pas frapper, puisque les bateaux faisaient demi-tour et que la clé c'était le blocus. Bref, alors, soyons clairs, je ne sais pas s'il y a eu d'autres interventions, bien sûr qu'il y a eu certainement d'autres interventions, parce qu'on n'imagine pas la Maison-Blanche se contenter d'un hypothétique appel du pape. Ce qui est vrai, c'est que des années plus tard, le dénommé Cousins, ce fameux journaliste, voulant en avoir le cœur net quand même, est allé voir Khrouchtchev, qui était déjà viré. Khrouchtchev a été viré en octobre 64, et il va le voir, Khrouchtchev est à la retraite chez lui, et Cousins obtient le rendez-vous. Et il dit, voilà, je suis venu vous voir parce que je voudrais savoir, est-ce que vraiment c'est bien le discours du pape qui vous a fait un peu reculer, il faut bien les choses. D'ailleurs, si Khrouchtchev a été viré, c'est aussi parce qu'on l'a traité de trop faible, un peu à cause de cette affaire. Et Khrouchtchev explique à Cousins, qu'il a raconté dans un tout petit bouquin, pas traduit en français, qui s'appelle The Improbable Graduate, ou un truc comme ça, je crois, que, en effet, Khrouchtchev avait, alors c'est hallucinant quand on dit ça, Khrouchtchev avait de la sympathie pour Jean XXIII. Et il dit à Cousine, vous savez, on est tous les deux des fils de la campagne, on sait ce que c'est que la paix, on sait ce que c'est que la boue, les souliers dans la boue, etc. Et on se comprenait. Les deux hommes ne se sont jamais parlé, bien sûr, dans l'histoire. Et Khrouchtchev dit à Cousine, et on pouvait se comprendre. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, sur le plan technique, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire mon chapitre. Parce que sinon, jusque-là, j'avais rien, en réalité. Tout ce que je vous ai raconté avant, si c'est pas étayé, s'il n'y a pas quelqu'un pour le confronter à la réalité, ça n'existe pas. Or là, heureusement qu'il y a eu cette rencontre entre Cousins et Khrouchtchev, qui en effet m'a fait, d'abord évidemment pour moi c'était une chance formidable. Vous comprenez bien que cette histoire, c'est là où c'est formidable, il n'y a aucun bouquin sur le sujet. Toute l'historiographie américaine est à la gloire de Kennedy, car l'affaire des missiles de Cuba a été réglée par la fermeté de Kennedy, c'est tout à fait clair, et notamment le frère Kennedy a écrit un compte-rendu minute par minute de l'affaire de Cuba, qui fait autorité, si j'ose dire, chez les historiens, et qui n'a absolument pas parlé du pape. Et quant aux soviétiques, vous imaginez bien que ce n'est pas eux qui vont faire la pub du chef de l'Église catholique. Donc, de toute façon, en URSS, on ne parle pas de cette affaire. Et du coup, il y a presque rien. C'est très ténu. Il n'y a que ce témoignage et des tas de petites choses. Notamment la Pravda d'époque, hein, franchement, on ne l'invente pas. Et puis les témoignages, des petits témoignages Delacroix qui avait dit, en effet, raconter cette soirée absolument incroyable où le pape Jean XXIII écrivait, puis allait dans sa chapelle prier, puis écrivait, puis allait dans sa chapelle privée. Les papes, c'est comme ça. Hein. Ce qui était quand même assez extraordinaire.
À l'instant, Bernard Lecomte, auteur des Derniers Secrets du Vatican, paru aux éditions Perrin lors d'une conférence débat que j'animais le 5 août dernier au Salon du Livre de Saint-Honoré-les-Bains. On marque une pause avant de retrouver notre papologue émérite. Voici pas de boogie-woogie. Le pape a dit, mais c'est Eddie Mitchell qui chante. Bonne soirée sur Radio. On se retrouve dans quelques minutes avec Bernard Lecomte.
Le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. C'est une nouvelle, il me faut l'annoncer à ma paroisse. Je suis curé. J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon serment. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je me posais bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru parler à mes fidèles sur ce ton. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout ce cœur. Afin d'observer les réactions sur certains visages de l'assistance se reflétait surtout l'indignation. Quant aux autres visiblement obtus, sachant qu'ils n'avaient rien compris, ils me demandèrent de faire à nouveau le sermon du boogie-woogie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout ce cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Donc pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Fidèles sont partis. Dieu, je reste seul dans ta maison. J'en ai l'air, mais le dire à quoi bon? Si ton pape m'a fait perdre l'affaire, j'irai tout droit en enfer. couper, j'essaierai encore à la messe de midi le sermon du boogie-woogie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, encore une fois, reprenez avec moi tous vos cœurs. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel, ne provoqué par votre Père éternel. Non, pas de boogie-woogie avant vos prières du soir.
Plus proche de vous, partout, pour vous, Radion, au cœur de la Bourgogne.
Wagon Livre vous fait partager quelques secrets, et oui, grâce à notre invité, le journaliste et écrivain Bernard Lecomte, qui a mené un gros travail d'investigation sur certaines grandes questions qui ont agité le monde de la papauté, nous évoquons en sa compagnie l'attitude des papes face aux deux guerres mondiales. Comment conserver sa neutralité quand les nations chrétiennes européennes s'entretuent ? Bernard Lecomte nous explique quelle fut l'attitude du pape Benoît XV durant la Première Guerre mondiale.
Benoît XV est nommé pape en août 1914. La guerre a commencé, en réalité, et elle a commencé entre les Allemands et les Français, c'est-à-dire entre un peuple chrétien et un peuple chrétien. Il traverse la Belgique, qui est aussi chrétienne. Donc le pape, là, il sait bien qu'il peut jouer un rôle, seulement pour jouer un rôle. Et c'est ça. Pourquoi je me suis attaché à ce cas-là, vous allez comprendre très vite, c'est parce qu'il permet de beaucoup mieux comprendre ce qui va se passer à la guerre d'après avec Pie XII. Car là, qu'est-ce qui se passe? Les Allemands, vous vous rappelez, les Allemands, le plan Schlissen, hein, les Allemands envahissent la Belgique, descendent le long de la Lorraine et vont jusqu'à Tournai, Dunkerque. Et alors déjà, c'est une horreur parce que ils incendient les villages, ils pillent les couvents, ils violent les bonnes sœurs. Enfin, je veux dire, c'est une invasion qui n'est pas du tout élégante. Et donc, ça fait des scandales, etc. Et tout de suite, on dit au pape, il faut intervenir. Et le pape n'intervient pas. Pourquoi? Parce qu'il dit, moi, je suis neutre. Si je romps cette neutralité, je ne peux plus intervenir. Si je suis d'un côté ou de l'autre, soit de l'agressé, soit de l'agresseur, en l'occurrence plutôt de l'agressé, certes, mais après, je ne peux plus intervenir. Je ne peux pas engager l'Église catholique d'un côté ou de l'autre. À ce moment-là, les Allemands bombardent la cathédrale de Reims.
Tout un symbole.
La cathédrale de Reims, c'est pas rien, quand même. Et donc, on dit au pape, enfin, vous ne pouvez pas rester silencieux. Et Benoît XV tient le silence. Il dit, j'ai proclamé la neutralité du Saint-Siège, je tiendrai la neutralité du Saint-Siège. Et le résultat, évidemment, ça va être qu'il va se faire traiter de tous les noms, de tous les côtés. Vous avez dit tout à l'heure qu'on le traitait d'allemand, Clémenceau l'a traité de pape Bosch, ouais, absolument. Mais Ludendorff, chef de l'état-major allemand à l'époque, le traitait de pape français. Le malheureux pape, il en prenait des deux côtés, évidemment. Alors, cette neutralité, encore une fois, moi je ne juge pas, je ne dis pas le bien et le mal, mais j'essaye de comprendre que cette neutralité, je ne vois pas quelle autre politique aurait pu avoir le Saint-Siège. Dans une affaire comme celle-là. Est-ce que le Saint-Siège peut n'être pas neutre sur une affaire comme ça? C'est pas si simple. Or, évidemment, ça va lui faire perdre toutes ses cartes. Et quand l'Italie va rallier les Anglais, les Allemands et les Russes, l'Italie va dire « Je passe de votre côté, d'accord ?» On est à Londres en 1915. Hein, et les Italiens disent « Il y a une toute petite condition, c'est que le pape soit exclu de toutes les conversations d'après-guerre. » Les Allemands, les Anglais, les Français et les Russes disent, évidemment, on ne va pas s'embêter avec ça, oui, bien sûr, tout ce que vous voulez. Ils étaient tellement contents que les Italiens s'engagent contre les Allemands. Et donc, il se passe ça. Et ça va être en 1917, donc 2 ans après, que le pape va découvrir que l'affaire italienne et les accords de Londres vont l'exclure. Pourquoi ? À cause de ça. Pourquoi je me suis attardé sur cette affaire qui fait en effet que l'absence du Saint-Siège dans les grandes conversations de l'après-guerre, du traité de Versailles à la SDN, c'est une vraie catastrophe diplomatique pour ce petit État qui n'avait au fond de réalité mondiale que là. Bon, c'est quoi le reste? Le reste, c'est l'Église catholique. Mais l'Église catholique, ça n'est pas l'État du Vatican. Et donc, c'était quand même un bel échec. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on va retrouver évidemment la problématique Pie XII. Parce qu'en 1939, c'est exactement la même chose qui se passe. Vous avez d'un côté les Allemands, de l'autre côté les Français. Vous avez de toute façon un pape au milieu qui dit mais ces deux peuples chrétiens, c'est difficile de trancher. Ce pape en plus, qui vient d'être élu, Pie XII, hein, a été élu en mars 1939, comme Benoît XV au début, et Pie XII, ancien diplomate, comme Benoît XV, ancien diplomate. Et Pie XII va dire neutralité du Saint-Siège. Or, neutralité du Saint-Siège, eh ben, ça veut dire impuissance du Saint-Siège en réalité, ça veut dire coup tordu, ça veut dire on passe par derrière, on essaye d'expliquer aux Italiens qu'il ne faut pas, cher Mussolini, vous êtes tellement intelligent que vous n'allez quand même pas rallier ce crétin d'Hitler. Alors évidemment, aujourd'hui, on dit, vous avez vu, il a dit « cher Mussolini ». Oui, enfin d'accord, c'était quand même de la diplomatie. Hein. Et Pie XII va se retrouver dans une logique terrifiante. Alors, ça n'épuise pas le sujet de Pie XII pendant la guerre, puisqu'il y a ensuite l'affaire de la Shoah et les sciences à partir de 1943, et puis il y a même un troisième volet à ça, qui est, après la guerre, est-ce que le Vatican a aidé à la fuite d'anciens criminels nazis. C'est autre sujet que je traite dans le bouquin. Mais c'est, voilà les trois volets de l'affaire Pie XII.
Mais Bernard Lecomte, est-ce qu'un SS aurait véritablement tenté de convaincre le pape Pie XII de protester contre les déportations des juifs italiens? Un repenti, un SS repenti.
Oui,
en 1943, vous en parlez.
Il y a en effet eu beaucoup de tentatives. Et le film, enfin, donc la pièce puis le film sur la Pie XII et la Shoah, romance un petit peu tout ça, mais à partir de faits qui sont avérés et multiples. Il y a beaucoup de gens qui ont prévenu Pie XII de la Shoah, de l'extermination, etc. Simplement, Pie XII disait à chaque fois, d'abord, neutralité du Saint-Siège, ensuite, peur des représailles. Parce qu'il ne faut jamais oublier, dans ce déroulé de la guerre, qu'en juin 1942, les premiers évêques à avoir monté au créneau en disant il paraît qu'on déporte les juifs et qu'on les brûle, c'était en 1942, en Hollande. C'est les évêques, la conférence épiscopale hollandaise. Et les évêques ont fait lire en chaire, en effet, dans toutes les églises de Hollande, un message protestant contre la déportation des juifs. La semaine d'après, les nazis ont déporté tous les juifs d'origine chrétienne, convertis. Donc tous ceux qui avaient un nom juif, dont par exemple Edith Stein, la fameuse philosophe, qui, comme les autres, s'est retrouvée à Auschwitz, brûlée deux jours après. Ce qui a quand même provoqué un choc terrifiant, parce que le pape a été évidemment tout de suite informé par les évêques hollandais eux-mêmes, qui étaient absolument terrifiés, en disant « c'est ça l'affaire ». C'est-à-dire que « ah, ben, vous avez fait votre lettre, là, c'est très bien, c'est très malin, ben, voilà ce qui se passe ». Et Pie XII, tout le reste de la guerre, va se dire « si moi, pape, je fais la même chose », ils vont en envoyer 500 000 à Auschwitz. Et Pie XII a eu... Alors, encore une fois, à tort ou à raison, je ne le sais pas, personne ne peut le dire aujourd'hui. Simplement, il faut comprendre le mécanisme. Dans la tête de cet homme, il y a une responsabilité qui est quand même assez terrifiante, il y a ça, il y a cette question qui n'aura jamais de réponse. Est-ce que les Allemands auraient fait la même chose qu'en Hollande en cas d'intervention trop forte de Pie XII? Alors, Pie XII, pendant ce temps-là, a ouvert tous ses couvents, monastères, etc. aux juifs persécutés. Pendant ce temps-là, il a fait quelques messages, dont un fameux radio-message à Noël, en disant que nul ne pouvait être exterminé pour sa race. Hein. Bon, alors évidemment, il n'y a pas le mot juif dans le message. Donc, peut-être qu'il aurait quand même pu aller un peu plus loin. Peut-être, en effet, encore une fois, comprenez bien que moi, je ne suis pas en train de refaire l'histoire en me disant, moi, Bernard Lecomte, à Saint-Honoré-les-Bains, aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'aurait dû faire le pape. Non, non, c'est trop compliqué, trop dur pour se mettre à la place. Simplement, il faut comprendre pourquoi cet homme-là a dit à moitié, etc. D'où l'importance de cette affaire de neutralité du Saint-Siège.
Nous marquons une nouvelle respiration au milieu de ce passionnant exposé de Bernard Lecomte, journaliste d'investigation et écrivain. Un entretien enregistré en public le 5 août dernier lors de la 19e édition de Bain de Livres à Saint-Eau. Je rappelle que Bernard Lecomte ainsi que plus de 50 autres auteurs et éditeurs sera présent au Claude Vougeot les 29 et 30 septembre prochains à la 5e édition de Livres en Vigne, fête du livre au cœur du vignoble bourguignon, présidé cette année par l'académicien Jean-Christophe Ruffin. Excellente soirée en notre compagnie sur votre radio locale. Je vous propose d'écouter Julos Bocarn qui revisite avec sa fantaisie coutumière la vie de Jésus dans un morceau qui a pour titre « Le Christ », extrait d'un album intitulé « Le front de libération des arbres fruitiers ».
Je fréquente le Christ dans la lumière blanche. Il est si mal noté par les mauvais apôtres, par ses amis, ses ennemis, par tous les autres, que je n'ose sortir avec lui le dimanche. On le montre du doigt, on dit « t'as vu l'hippie ?» Ses longs cheveux en doigt, on dirait une fille. Son papa, c'est le bon Dieu qu'a rencontré Marie dans une surprise partie, puis retournée chez lui. Je fréquente le Christ dans la lumière blanche. Il est si mal noté par les mauvais apôtres, par ses amis, ses ennemis, par tous les autres, que je n'ose sortir avec lui le dimanche. Les marchands de vin lui font la vie dure. Depuis qu'à Cana, il en fit sans facture. Les syndicats de médecins rouspètent, paraît qu'ils replâtrent des aveugles, des manchots et même des culs de jatte. Je fréquente le Christ dans la lumière blanche. Il est si mal noté par les mauvais apôtres, par ses amis, ses ennemis, par tous les autres, que je n'ose sortir avec lui le dimanche. Il se promène dans la rue avec Marie-Madeleine, une môme en mini-jupe, c'est pas convenable tout de même. Il lit Régis Debré, ses bénets d'apôtres, des pêcheurs recyclés qui n'y comprennent goutte. Je fréquente le Christ dans la lumière blanche. Il est si mal noté par les mauvais apôtres, par ses amis, ses ennemis, par tous les autres, que je n'ose sortir avec lui le dimanche. Judas Iscariote, un soir, n'avait plus de quoi se payer un cigare, alors il l'a vendu, alors il l'a vendu.
Radion. Ancien grand reporter à La Croix et à L'Express, ancien rédacteur en chef du Figaro magazine, Bernard Lecomte est l'auteur aux éditions Perrin des Derniers secrets du Vatican. Un des 16 chapitres du livre de notre papologue est consacré à une pièce de théâtre écrite en 1963 par Rolf Ohrhurt et qui a pour titre « Le vicaire ». Cette pièce de théâtre dénonçait l'attitude de Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors le pape n'a-t-il pas été trop discret vis-à-vis de la Shoah ? Réponse et explication par Bernard Lecomte.
Oui, alors il faut rappeler, je crois, pour bien comprendre l'importance de cette affaire de pièce, le vicaire, qui n'aurait pu être qu'un épisode tout à fait secondaire dans l'histoire, parce qu'il y a toujours eu des pièces, des films, des livres qui nourrissent évidemment les débats, les polémiques, etc. Mais il faut bien comprendre que lorsqu'en 58... Pie XII meurt à Castel Gandolfo, le monde entier envoie des messages, vient aux obsèques. Les obsèques, c'est le plus grand rassemblement d'Italie de l'après-guerre. Et le monde entier vient aux obsèques et explique que Pie XII est un type formidable qui a sauvé beaucoup de juifs, dont Madame Golda Meir, ministre des Affaires étrangères de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'en 58, le pape est un saint pour toute la terre. C'est très important de comprendre ça, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi cette pièce en 63 a tellement d'importance. En 58, le pape est un saint pour tout le monde.
Avec quand même une légende noire.
Très peu. très peu. Il est, pour les Romains, il est le sauveur de la cité, hein, Salvator Civitatis, parce qu'il était descendu dans la rue, il s'est beaucoup bagarré pour qu'il n'y ait pas de bombardement en 44 sur Rome, donc les Romains lui sont très reconnaissants de ça. Pour les Juifs italiens, Pie XII est un sauveur de Juifs, hein. Le grand rabbin de Rome va, et qui doit la vie à Pie XII, va même se convertir au catholicisme, et en appelant son fils Eugénio, le prénom du pape. Bon, alors je ne sais pas si cet homme-là est allé trop loin ou pas, j'en sais rien, je ne peux évidemment pas le juger non plus, mais enfin, c'est quand même des trucs incroyables. Donc, en 58, tout le monde estime que Pie XII est un saint, et à partir de 63, l'image de Pie XII va se retourner comme un gant, complètement. Du pape, évidemment saint, formidable pour tout le monde, il va devenir, au contraire, un pape incroyablement négatif. Et moi, je me suis intéressé à ce retournement. C'est ça qui m'intéressait, moi. C'est le retournement. Comment une simple pièce peut opérer un renversement d'image aussi extraordinaire.
Simple pièce d'un inconnu. En fait, il y a une communication et une propagande, forcément, qui a desservi l'image du pape,
oui,
et des pratiquants de l'époque.
On pourrait parler des heures de ça, parce que c'est vraiment un phénomène tout à fait formidable. Très, très, très passionnant. Disons qu'il y a eu une chose qui n'a jamais été vraiment soulevée, soulignée, et qui me paraît, à moi, observateur de loin, comme étant essentielle. L'auteur de la pièce, bon, il est est-allemand, il est protestant de culture, mais il a 31 ans. Il a 31 ans. Il n'a pas connu la guerre. Et c'est fondamental. C'est-à-dire que cet homme-là incarne la nouvelle génération des victimes et des bourreaux à la fois. Après la guerre, les générations après-guerre, nos parents ou nos grands-parents, les uns et les autres, se sont tus, et les rescapés. Moi, je me souviens d'avoir beaucoup parlé avec Simone Weil de ce sujet-là un jour à Cracovie. C'était extraordinaire, et Simone Weil me racontait pourquoi elles se sont tues, parce qu'elles ne pouvaient pas être entendues. Les bourreaux se sont tus parce qu'ils voulaient vivre malgré la responsabilité. Ça, c'était du côté évidemment allemand. Et les victimes se sont tues aussi, jusqu'à ces années 60, où la nouvelle génération a voulu savoir. Et Horthy, au fond, même s'il a été à l'évidence manipulé par un gars qui s'appelle Piscator, qui était un vieux marxiste stalinien, qui savait très bien ce qu'il faisait, lui, incontestablement. Mais Horthy, lui, était relativement sincère quand on lit tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a déclaré. Et en plus, il ne disait pas « le pape est coupable de l'extermination des Juifs ». Il disait « pourquoi le pape n'a pas prévenu les Juifs de l'extermination ?» Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est Piscator qui a tout retourné. Et ce qui s'est passé, c'est que les débats enclenchés par cette pièce, et à ce niveau de génération, encore une fois, c'est capital, y compris chez les catholiques, car les catholiques sortent du concile, enfin, 63-65, c'est le concile. Et pour la première fois, les laïcs, les catholiques de base, comprennent après le concile que c'est à eux aussi de porter la discussion, de s'ouvrir, de ne pas être des bénis oui-oui parce que le pape a dit ceci ou cela.
Non, puis ce qui est incroyable, c'est que l'Église songe même à porter l'affaire devant la justice un certain temps.
Oui, parce que à Rome, c'est la stupéfaction. C'est-à-dire que ceux qui ont connu cette époque-là, ils sont encore très nombreux à Rome, évidemment, notamment Montini, le futur Paul VI, qui a été le principal collaborateur, enfin, un des deux principaux collaborateurs de Pie XII. Il s'appelle Montini et Tardini. Et Montini est là. Il n'est pas encore Paul VI. Il est archevêque de Milan en ce moment-là. Il sait ce qui s'est passé jour après jour pendant la guerre.
Mais est-ce que ça montre pas aussi que l'Église aurait une mauvaise conscience par rapport à cette période, par rapport à cette position neutre de l'Église dans les moments de crise, qui finalement dessert considérablement la notoriété du pape?
Alors, on ne peut pas dire l'Église a mauvaise conscience, parce qu'il y a toute une partie de l'Église qui n'a pas mauvaise conscience du tout. Demandez aux résistants catholiques qui étaient dans le maquis s'ils ont mauvaise conscience, ils vont dire non.
Mais je vous dis ça aussi par rapport à la position des évêques de France pendant l'occupation, puisqu'il y a eu une sorte Alors là aussi, bon, on mélange peut-être un peu les choses, mais...
Non, tout est lié, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que l'Église de France, au niveau institutionnel, pendant la guerre, n'a pas brillé par son courage extrême. C'est-à-dire qu'on sait que sur les 90 évêques français catholiques, il y en a une trentaine qui étaient quand même franchement très proches des autorités de Vichy. Bon. Alors, ça fait jamais qu'un tiers, vous allez me dire. Enfin, bon, c'est quand même beaucoup. Et puis, ça a une importance psychologique et politique essentielle. Après la guerre, ça va être un sujet formidable. Mais à ce moment-là, on est déjà bien au-delà. C'est-à-dire que c'est à Rome où les gens disent, mais ils sont en train d'expliquer que Pie XII a autant de responsabilités dans l'extermination des Juifs que Eichmann. Ce qui est évidemment complètement insensé pour les gens de Rome, pour l'entourage du pape, qui sont en général des gens, bon, il y en a qui connaissent bien le sujet, d'autres pas du tout, mais ils sont quand même plutôt sincères les uns et les autres. Et ils sont sidérés de voir qu'on est en train de faire de leur pape, qui est leur grand homme, qui est leur héros, un des coupables de l'extermination des Juifs.
On se retrouve dans quelques minutes pour évoquer d'autres secrets du Vatican, notamment l'affaire Esterman, une affaire de meurtre qui a défrayé la chronique en mai 1998 sous le pontificat de Jean-Paul II. Trois cadavres en plein cœur de la cité du Vatican, parmi lesquels celui du commandant de la garde suisse. Qui donc a voulu la mort du colonel Esterman? Quels sont les mobiles? Les rumeurs, à l'époque, allaient bon train. Mais, journaliste d'investigation, notre invité Bernard Lecomte nous apportera quelques éléments de réponse. Tout de suite, Souvenir, souvenir, un titre de 1980, Dieu est un fumeur de Havane. Bien sûr, c'est Serge Gainsbourg.
Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ses nuages gris. Je sais qu'il fait même la nuit comme moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues. Parfois venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après Dieu.
Dieu est un fumeur de Havane. C'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie au paradis. Je le sais, ma chérie.
Gitane, sans elle, tu es malheureux. Au clair de la lune, ouvre les yeux pour l'amour de Dieu.
Tu es un fumeur de Havane, tout près de toi, loin de lui. J'aimerais te garder toute ma vie. Comprends-moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Et la dernière, je veux la voir briller au fond de mes yeux. Aime-moi, nom de Dieu.
Garder toute ma vie. Comprends-moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Et la dernière, je veux la voir briller au fond de mes yeux. Aime-moi, nom de Dieu.
Thank you.
Un numéro de Wagon Livre plein de secrets ce soir sur votre radio locale, puisque nous évoquons les derniers secrets du Vatican du journaliste Bernard Lecomte, livre paru aux éditions Perrin. L'entretien que nous vous proposons, je le rappelle, a été enregistré le 5 août dernier à Saint-Honoré-les-Bains au cours d'une conférence débat que j'animais en public avec notre papologue. Le moment est venu de parler de l'affaire Esterman, un triple meurtre au cœur de la cité du Vatican en mai 98, sous le pontificat de Jean-Paul II.
Il y a un garde suisse qui est puni, un peu humilié par son supérieur, lequel supérieur, justement, cette semaine-là, va devenir le grand patron de la garde suisse. Bon. Et le gamin, qui s'appelle Cédric Tornet, ne supporte pas il a été privé d'une médaille, bon, voilà. Il s'est fait engueuler parce qu'il avait été absent une soirée. Enfin, des bricoles, si j'ose dire, c'est terrible, parce que comme tous les grands faits divers, d'ailleurs, ça repose sur des bricoles. Et Cédric Tornet pète un plomb. C'est ça l'histoire. Il pète un plomb et il va assassiner. Comme ils sont armés, c'est des gens qui ont des armes, hein, les gardes suisses, évidemment. Et donc, il va tuer Esterman. Voilà. Au moment même où Esterman arrivait au sommet de sa carrière, etc.
Bon. Ce qui est intéressant,
il tue aussi la femme qui est là, mais encore une fois, il est devenu fou, le Cédric. Et après, il se suicide, et ça fait 3 morts, en plein Vatican, etc. Ce qui est formidable dans cette histoire, c'est, bon, bien sûr, l'histoire elle-même est étonnante, parce qu'après, on va inventer des trucs. Mais ça va être pareil pour tous les faits divers. Au Vatican, parce que le Vatican, c'est le Vatican, c'est immédiatement, alors, l'Opus Dei, les jésuites, la Camorra italienne, c'est forcément, on nous ment tout le temps, forcément. Et ça part dans toutes les directions. Les journaux italiens sont des spécialistes. Ils l'ont encore fait il y a 2 mois, vous savez, avec l'histoire du majordome. Ceux qui lisent la presse italienne se régalent tellement, c'est insensé, quand même. Mais c'est les journalistes italiens, j'ai plein de copains dans la presse italienne, c'est des gens absolument délicieux, formidables, qui trouvent tout ça génialement passionnant. Sauf qu'ils disent rigoureusement n'importe quoi. Mais ça fait partie de la culture romaine. Pas tous, hein, évidemment. Mais enfin, quand même, globalement, la presse italienne, c'est quelque chose.
Mais l'affaire Esterman, Bernard, elle est classée quand même très rapidement. Au bout de 9 mois, l'affaire est classée.
Mais parce qu'il n'y a rien
à en dire. Alors que la maman du...
Parce qu'il n'y a rien à en dire. Elle va ressortir uniquement parce que la maman est sollicitée par un avocat qui s'appelle Jacques Vergès. Vous voyez ce que c'est, Jacques Vergès? Bon. Jacques Vergès va voir la maman en disant « Mais il faut vous défendre, vous ne pouvez pas laisser les choses comme ça, etc. » Vergès, vous imaginez bien que Vergès, il a pas comme souci de défendre cette malheureuse Suissesse qui a perdu son gamin et qui est toute malheureuse. Lui, il va en faire évidemment un combat contre le pape, parce que dire « Là, moi, Vergès, je vais... » Et effectivement, avec son associé, qui s'appelle Brossonnet, que j'ai rencontré, ils vont lancer un combat contre la papauté tout entière. Bon. C'est pas exactement comme ça qu'on résout un vrai problème, quoi. Et ils n'ont pas avancé d'un iota dans l'explication des choses. Donc aujourd'hui, alors il y a toujours un doute, vous savez, c'est comme dans tous les grands faits divers, il y a toujours un doute, parce qu'il y a toujours un petit truc qui cloche, un petit machin.
Par exemple, le colonel Esterman aurait appartenu à la Stasi, c'est-à-dire l'ex ou l'ancienne police politique de l'Allemagne de l'Est.
C'est typiquement ce que les journalistes italiens adorent. D'ailleurs, les nôtres aussi un peu, quand même, faut dire. Dès qu'il y a un mec qui soupçonnait d'avoir fait partie d'un service secret, ce qui est formidable avec les services secrets, je veux dire, moi j'ai 30 ans de métier sur ce coup-là, c'est que c'est jamais vérifiable. Évidemment, puisque c'est des services secrets. Bon, donc c'est formidable. On peut monter des trucs magnifiques avec les services secrets. Il y a simplement un léger détail, c'est qu'il y a quand même un des patrons les plus importants de l'histoire de toute la Stasi qui a été interrogé sur cette affaire et qui a dit non. Il ne faisait pas partie de la Stasi, alors que c'est un des rares types au monde et dans l'histoire des hommes à pouvoir dire oui ou non il était sur nos listes.
Bon. Et quand les historiens, notamment les historiens italiens, s'en mêlent, ça donne des explications cocasses. Ah, c'est-à-dire qu'Esterman et le jeune vice-caporal étaient homosexuels, avaient une relation.
Alors il y avait ça aussi, alors que.
Dans un monde où 70% des gens sont homosexuels, c'est très drôle aussi.
Oui, c'est un type qui a monté ce bateau incroyable en disant en fait c'était une relation homosexuelle mal vécue entre Esterman et Cédric Tornet. Bon, Esterman était marié, heureux en ménage, et Tornet avait une petite amie. Il faut quand même être gonflé pour expliquer que c'est quand même une relation homosexuelle. Personne n'a pu vérifier ça, personne n'a jamais prouvé le tiers du quart du commencement du fait qu'il se soit retrouvé un soir dans une boîte, etc. il y a un pipeau géant. Mais au Vatican, il y a toujours un pipeau géant. Dans le premier tome, je traite la mort de Jean-Paul Ier, hein, le cardinal Luciani, devenu pape pendant, juste après Paul VI, donc en août 1978, et qui va régner 33 jours avant de mourir. Je ne ferai pas le récit aujourd'hui, mais c'est hallucinant tout ce qu'on a inventé, débordé. Enfin, c'est magnifique. Je veux dire que les fausses histoires constituent une histoire encore plus vraie que la vraie, quoi. C'est complètement fou.
Et vous les rendez bien, d'ailleurs. Vous en rendez vraiment bien compte.
Bah, j'essaie.
C'est formidable.
J'essaie.
Il y a Pascalina aussi.
Alors, en deux mots, Pascalina.
Allez, Pascalina.
Parce que, ça, évidemment, Pascalina, dès qu'on ouvre ce dossier-là, les gens se disent « Ah bon, c'est quoi cette histoire formidable ?» Et j'ai appelé ça, je crois, la femme derrière Pie XII.
Oui, c'est ça, la femme derrière Pie XII.
C'est un destin extraordinaire d'une jeune religieuse qui s'appelle Pascalina Lehnert, qui est allemande, et qui est envoyée par sa supérieure au service du jeune nonce apostolique qui vient d'arriver à Munich, on est en 1917, et qui s'appelle Eugenio Pacelli. Bon, c'est tout à fait naturel, quand le nonce s'installe quelque part, il demande à ce que le ménage soit fait, à ce qu'il y ait des gens qui fassent... Bon, et à l'époque, le ménage, c'était les religieuses qui venaient le faire. Bon. Et donc, elle s'installe, elle a 23 ans, elle est ravissante, parce que quand on voit ses photos, on se dit quand même, elle a un sourire magnifique, bon. Et elle est surtout, cette fille-là, on va le comprendre après, elle a un culot absolument phénoménal. Et ce culot la porte à être la gouvernante du nonce, donc de gouverner une douzaine d'employés, qui évidemment sont tous fous furieux d'être gouvernés par une petite nana de 23 ans.
Autoritaire.
Et lui, le pape, enfin le futur pape, Pacelli, il est fasciné par elle. Il est fasciné parce que, bon, il n'est pas habitué à la gent féminine, comme on dit, hein, le Pacelli, il habite chez sa maman jusqu'à l'âge de 33 ans quand même, hein. 37 ans même, je crois. 37 ans, c'est-à-dire qu'il n'est pas exactement formé à la vie normale. C'est d'ailleurs anormal, c'était une exception, parce quelqu'un m'a expliqué que la règle canonique, c'est non, un prêtre ne peut pas habiter chez sa maman jusqu'à 37 ans, c'est pas vrai, il doit habiter en communauté pour justement ne pas être tout seul avec elle. Bref, je passe, la fille devient amie, enfin la religieuse, la jeune femme devient amie avec Pacelli, elle est intelligente, elle l'aide très bien, elle comprend très bien le bonhomme, elle comprend sa solitude. Elle comprend ses problèmes, et Pacelli, à un moment, ne peut plus s'en passer sur le plan de la maison. Elle devient donc à la fois sa gouvernante, sa confidente, son amie, un peu son chef de cabinet, jusqu'à ce que Pie XI meure, on est en 1939, tout le monde sait que celui qui a des chances d'être pape, c'est Pacelli, et là, évidemment, Pacelli lui dit, attendez, parce qu'elle est chère sœur, c'est un peu délicat de venir maintenant me voir parce que je vais être pape. Et Pascalina, qui a un culot monstre, encore une fois, lui dit, mais éminence, vous allez faire comment? C'est moi qui connais vos médicaments? C'est moi qui sais de quoi vous avez besoin le matin? C'est moi, etc. Et Pacelli dit, mais au fond, elle a raison. Et au moment d'entrer en conclave, chaque cardinal arrive avec son aide de camp ou son assistant ou son secrétaire. Parfois deux. C'est la règle du conclave. Et puis on enferme tout le monde dans le conclave, là, et puis c'est les jeunes, enfin qui ne sont pas toujours jeunes d'ailleurs, vont aider leur cardinal à passer la nuit, à prendre ses médicaments, etc. Et Pacelli dit, mais la seule qui puisse faire ça, c'est Pascalina. Et Pascalina se retrouve assistante, gouvernante de Pacelli. Scandale absolu. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, en tout cas des conclaves, qu'une femme... Vous vous rendez compte, une femme est présente dans un conclave. Et les cardinaux, qui sont quand même, il faut bien le dire, majoritairement assez misogynes, disent que c'est pas possible. Sauf qu'il va être pape et qu'on peut rien dire. Parce que évidemment, personne ne va déclencher un scandale alors que tout le monde sait qu'il va être élu pape. Il est élu pape. Et il garde Pascalina avec lui. Et Pascalina va devenir effectivement sa confidente et sa gouvernante. Encore une fois, sur le plan personnel, il y a cette fascination de Pie XII pour cette religieuse incroyablement gonflée, qui est intelligente, qui l'aime beaucoup en plus. Et puis, cette femme, certainement un petit peu amoureuse de son grand homme. Mais enfin, peut être amoureux d'un grand homme, quoi, dans l'ombre du grand homme, je n'ai vu à aucun moment l'esquisse d'un bout de commencement de truc graveleux dans cette aventure. Sauf que c'est au contraire beaucoup plus intéressant de voir, justement, psychologiquement, cette espèce de couple qui va se retrouver. Alors comme Pie XII va être de 39 à 58, deux décennies, vous imaginez le rôle de Pascalina pendant ces deux décennies. Elle va finalement se faire détester de tout le monde. Parce qu'à un moment, pour voir le pape, il faut passer par elle. Et puis, l'agenda du pape, c'est elle qui le tient. Parce qu'elle dit, ah non, non, à ce heure-là, il dort. À ce heure-là, il fait autre chose. À ce heure-là, etc. Donc c'est elle qui gère l'agenda. Et puis, vous imaginez, Yannick, pour les cardinaux de Curie. Les cardinaux, les princes de l'Église, obligés de passer par une femme pour rencontrer le pape.
Et elle en fait même attendre un pour privilégier une rencontre avec Clark Gable. C'est bien ça, là.
Ah oui, ah, ça, il était...
Quelle audace, aussi. Ça.
Ah, oui, oui, oui. Mais elle était gonflée. Et c'est ce qui faisait certainement sa personnalité attachante aussi, évidemment, que si elle était une fille sans aucun caractère, sans doute qu'elle n'aurait pas eu ce destin-là.
Gifler le cardinal Tisserand, qui est quand même aussi personnage.
Ça, c'est une scène... Alors, pour être tout à fait vrai, je ne suis pas sûr à 100% de la scène, car quelqu'un m'a dit, est-ce que vous êtes certain, etc. Bon. Mais j'avais deux écrits... L'histoire est formidable. En juillet 1943, Mussolini est arrêté. Bon. À Rome, il y a un proche du pape, qui est un Français, qui est Maurice Tisserand, qui est un personnage très truculent, qui fume le cigare, qui met les pieds sur le bureau, qui parle comme un charretier, qui est un des plus grands savants de son époque, quant aux langues orientales d'ailleurs. Et Tisserand, il est comme ça, c'est un personnage extraordinaire. Bah, nous, à Dijon, on a eu Chanoine qui, hein, c'est un peu comme ça, mais Tisserand, c'est le niveau au-dessus. Et Tisserand, apprenant que Mussolini a été arrêté, se précipite dans la chapelle privée du pape, où le pape est là en train de prier avec sa gouvernante, Pascalina. Il entre dans le truc, il fait très Saint-Père, ils ont arrêté ce putain de salaud de Mussolini. Je pense qu'il a dit putain de salaud exactement, mais enfin, je traduis, c'est exactement ça qu'il a dit. Et Pascalina est tellement choquée, c'est Tisserand qui va le raconter après, qu'elle jaillit et le gifle. On est dans la chapelle, le Saint-Père est en train de prier, qu'est-ce que c'est que ce type qui arrive avec ses gros mots, etc. Bon. Et Tisserand part en disant, ah, voilà, c'est ce qui arrive quand on est gouverné par les femmes. Bon. Phrase tout à fait plausible dans la bouche de Tisserand, qui était absolument comme ça. C'est une anecdote.
Mais enfin, il se vengera bien d'elle.
Oui, parce que la fin, le destin se termine assez tristement pour cette femme qui, à ce moment-là, évidemment, est âgée comme Pie XII. Au moment de la mort de Pie XII, donc Pie XII meurt à Castel Gandolfo fin octobre 58. Et elle est là, elle est toujours là. Elle l'a veillée jusqu'au bout sur son lit de mort. C'est elle qui a fait entrer les uns et les autres dans la chambre où il était en train de mourir, y compris le doyen du Sacré Collège, qui s'appelait Maurice Tisserand à ce moment-là. Car c'est le même Tisserand qui se retrouve doyen du Sacré Collège à ce moment-là. Et doyen du Sacré Collège, c'est quand même le numéro un de la hiérarchie dans un cas comme ça. Il y a le secrétaire d'État, mais Pie XII n'avait pas de secrétaire d'État. Et donc il y avait le doyen du Sacré Collège qui était le cardinal Tisserand. Et le cardinal Tisserand était encore à ce moment-là obligé de passer par sœur Pascalina pour voir si le pape était mort. Alors ça a été terrifiant, parce que bon, le pape est mort, on l'a ramené à Rome, et deux jours après, Pascalina est dans le bureau du doyen du Sacré Collège, en disant, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et Pascalina lui dit, écoutez, éminence, ce que j'aimerais, c'est avoir quand même quelques jours pour me retourner, et puis, si possible, pouvoir partir avec quelque chose, un objet, quelque chose du Saint-Père. Et il faut savoir que le Pie XII aimait beaucoup les oiseaux. Et les gens détestaient son habitude, il avait deux cages à oiseaux, et pour son petit déjeuner, il libérait les piafres qui venaient picorer comme ça. Ça agaçait au plus haut point les cardinaux. Et Tisserand répond à la sœur terrorisée, évidemment, « Ma sœur, vous partez à 19h, et puisque vous voulez un objet du Saint-Père, prenez donc les deux cages, là. » Et à 19h30, la malheureuse Pascalina se retrouve à la station de taxi devant Saint-Pierre de Rome, avec deux cages à oiseaux, sa valise et un billet de 200 euros. Enfin, qui n'était pas des euros à l'époque, mais c'était l'équivalent.
Elle est morte à 90 ans en 1983.
Oui. Et malheureusement, elle n'a pas... Elle a écrit un petit bouquin d'auto-promotion du pape pour vous justifier, mais elle n'a pas raconté sa vie.
Merci Bernard Lecomte d'avoir dépoussiéré quelques-uns des secrets, voilà. On a peut-être encore. Merci beaucoup. Et donc, pour vous toutes et tous ici, formidable à lire que se sont dit par exemple Jean-Paul II et Gorbatchev, les deux Slaves. Enfin, le tombeau de Saint-Pierre, vous retrouverez quelques-uns des sujets, plus tous ceux dont on n'a pas pu parler, faute de temps. Voilà. C'est donc les derniers secrets du Vatican par Bernard Lecomte aux éditions Perrin.
Merci Bernard. Merci.
Nous allons laisser de côté les secrets du Vatican. Je voudrais vous informer d'une belle manifestation. Il s'agit d'un festival de bande dessinée de science-fiction qui se tiendra les 29 et 30 septembre prochains. C'est un événement effectivement important puisque c'est encore un jeune salon qui a pour nom le monde des bulles et de l'imaginaire. On écoute la libraire de Tonnerre de la librairie Plume et Images, Sylvie Ricard, nous présenter cette manifestation dont sa librairie est partie prenante.
C'est en effet une manifestation conviviale et chaleureuse à laquelle nous vous invitons. Il s'agit du salon de la bande dessinée intitulé Le Monde des Bulles qui aura lieu les samedis 29 septembre et dimanche 30 septembre au Mont-Saint-Sulpice. C'est une petite commune située entre Saint-Florentin et Migennes. Le salon aura lieu dans une salle communale qui sera bien fléchée et vous la trouverez aisément. Donc ce salon réunit une trentaine d'auteurs de bandes dessinées et notamment Marcel Luderzo qui est donc le frère du célèbre père d'Astérix. Les horaires de ce salon sont le samedi de 13h à 18h et le dimanche de 10h à 18h aussi. Une petite restauration est prévue sur place et il y aura un jeu concours qui permettra de gagner des bandes dessinées dédicacées, bien entendu. Donc je vous invite à venir très nombreux à ce salon car vous y passerez un moment convivial très agréable et vous pourrez discuter avec les auteurs de vos bandes dessinées préférées.
C'était Sylvie Ricard, libraire à Tonnerre, qui nous présentait le festival de bandes dessinées et de science-fiction Le Monde des Bulles et de l'Imaginaire qui se tiendra, je rappelle les dates, les 29 et 30 septembre prochains au Mont Saint-Sulpice. Vous avez eu toutes les explications. Si jamais vous aviez besoin de connaître la liste des auteurs de BD invités, vous pianotez sur votre ordinateur Le Monde des Bulles et de l'Imaginaire. Vous arriverez ainsi sur le blog, le site du festival, et vous pourrez ainsi prendre connaissance des différents auteurs de bandes dessinées, caricaturistes ou dessinateurs de presse qui seront invités aux côtés de Marcel Luderzo, l'invité d'honneur. Je voudrais aussi mentionner, alors c'est aux mêmes dates, c'est en Côte d'Or, au château du Clos de Vougeot, les 29 et 30 septembre prochains. Je voudrais bien sûr attirer votre attention sur la tenue de la 5e édition de Livres en Vigne qui sera cette année présidée par l'académicien Jean-Christophe Ruffin. Alors un très grand nombre d'écrivains sont invités, j'en mentionne quelques-uns, des auteurs régionaux, je pense à Sandra Amani, Gérard Calmette, Marie-Thérèse Mutin, Didier Cornaille, et puis des auteurs très importants, très connu de la littérature contemporaine, Noël Baleine pour le polar, Tahar Ben Yeloun, Jean-Pierre Coff, Jérôme Delury, François Dorcival, David Hempton, Armel Job, Bernard Lecomte que vous avez entendu ce soir, Jean-Paul Nozière, Jean-Christian Petit-Fils, Daniel Picouli, Jean-Robert Pitt, Denis Tillinac et peut-être Florian Zeller, là aussi pour vous tenir informés en temps et en heure des écrivains qui seront présents à cette 5e édition de Livres en Vigne au château du Clos de Vougeot, vous pianotez www.livresenvigne.com, c'est les 29 et 30 septembre prochains. Nous nous retrouvons, nous, dans une petite semaine, le mercredi 26 septembre, toujours à 21h sur Radion, avec un agrégé d'histoire, Jean-Louis Voisin, qui nous transportera dans le temps, puisque nous nous retrouverons en 52 avant Jésus-Christ, au moment de la bataille d'Alésia, puisque Jean-Louis Voisin, historien, a commis un très bel essai historique paru aux éditions de Bourgogne sur cette bataille d'Alésia et sur le site de la bataille d'Alésia. Rendez-vous donc mercredi prochain, 26 septembre à 21h, toujours sur Radion. Et je rappelle aussi que les émissions Wagon Livre sont disponibles après leur diffusion en podcast sur le site internet de Radion, www.radion.fr. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Au revoir.